Quoiqueskina, ici Alexandre Nicodeau, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Nous sommes présentement avec Christine Siwewalanwat pour le 142e épisode. Christine, si tu pourrais t'introduire à nos auditeurs.
Ah oui, hello, c'est moi. Je m'appelle Christine Siwewalanwat. Je suis une artiste en art visuel et une auteure à Benakis Wenda. Voulez-vous savoir autre chose?
On veut tout savoir.
Ah oui, bon, ça va prendre tout l'après-midi.
Oui, d'ailleurs, Christine, tu es encore pionnière. Je pense que tu es la première personne qui revient sur la rue Adadegan au podcast, puisque le podcast numéro 7 dans nos archives, c'était avec la très fameuse artiste Abenakis Wendat, Christine Siwewalanwat elle-même. Et on avait terminé cette conversation avec, en se disant, ma foi, on en aurait pour des heures si on continue à parler. Et Danica Saint-Laurent, qu'on salue d'ailleurs, notre amie qui était de l'équipe de Terre Zombie à l'époque, elle avait dit, on vous arrête là, parce que vous en auriez pour des heures, vous deux. C'est-à-dire toi et moi. Et donc, j'avais rajouté, il faudra réinviter Christine. Alors,
et voilà, c'est fait.
Voilà, promesse exprimée, promesse tenue. Voici à nouveau Christine, directly from Odanak.
Oui, voilà. Ah, j'ai une question. Pourquoi ça s'appelle la rue Atateken?
C'est le nom qui a été donné. Il y avait un quelconque général génocidaire qui avait sévi contre les populations autochtones à l'époque historique. Man, j'ai oublié ce nom-là, là. Ça résonne pas. Alors donc, voilà, et qui avait son nom à Montréal, et ça faisait longtemps qu'il y avait des revendications pour changer le nom. Il y en a qui disent, ah ben non, vous effacez l'histoire. Moi, ce que je disais, c'est l'histoire, vous nous passez notre temps à dire que c'est les écrits dans les livres. Alors, un nom de rue, ça efface pas les livres, puis ça efface pas les archives. Là, chez moi, qu'on efface l'histoire. Au contraire, on fait l'histoire. Hein? La ville qui s'appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg et qui s'appelait Saint-Pétersbourg au moment de sa construction s'est appelée Stalingrad, Belgrade, pas Belgrade, mais enfin. Il a eu 3-4 noms, Leningrad, Stalingrad, je ne sais plus quoi, avant de redevenir Saint-Pétersbourg. Puis ça fait partie de son histoire. Il n'y a pas eu là d'effacement de l'histoire, au contraire, une histoire qui se fait. Alors, on a travaillé avec des aînés de la nation Mohawk, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être membre du comité. Et c'est eux qui ont exprimé le souhait que le nouveau nom soit un nom rassembleur, que ce soit pas le nom d'une personne, c'est pas d'honorer une personne, mais bien d'amener un concept autochtone, rassembleur. Et finalement, Adadegan, en langue mohawk, ça veut dire, c'est le même mot, hein, parce qu'il n'y a pas de genre masculin, féminin, dans la plupart des langues autochtones, y compris le mohawk. Ça veut dire sororité et fraternité. Alors, hein, frère et sœur, c'est le même concept, Adadegan. Donc, voilà, la fraternité, sororité proclamée dans la toponymie, contrairement au militarisme historique qui était implicitement gravé dans le toponyme précédent. Voilà la courte histoire.
Ah, puis à l'époque du podcast, là, c'est que je pense que quand tu étais avec nous, ça s'appelait encore podcast Présence autochtone. Mais il y avait eu aussi un désir de se distancer du festival Présence autochtone puis le podcast. Fait que c'est pour ça qu'on avait choisi Rue Adadegan pour qu'on puisse différencier les deux.
Mmh. OK, bon, je comprends, là. Et sur la rue Adadegan, il y a un musée qui s'appelle le Musée du Fier Monde. Et j'ai un tableau, là, enfin, une œuvre, qui va être là pour 6 ans. Et c'est l'image, c'est le virus de la petite vérole. Et c'est sur une espèce de grande couverture parce que le général Amherst, il avait ordonné qu'on donne des couvertures aux gens, aux autochtones en fait, ben pour les détruire, comme ça avec un virus.
Oui, ben c'était à l'époque où Pontiac avait fait le siège de Détroit, donc il y avait une résistance autochtone très vive à l'occupation britannique. Il y a certains historiens qui ont dit « Ah, oh, ils se battaient pour les Français, Pontiac. Ils se battaient pas pour les Français. Hein? Ils se battaient d'abord pour les Anishinaabeg, dont il était le leader, le chef de guerre, et contre justement les empiétements territoriaux qui s'en venaient. Et c'est là que, apparemment, on sait pas si ça s'est fait de facto, mais Amherst avait donné mandat à ses subalternes d'organiser une distribution de couvertes toxiques qui venaient des hôpitaux puis des sanatoriums d'Europe pour empoisonner. Alors, il avait quand même compris déjà le principe de la guerre virologique et de la contagion. Donc, il était, on pourrait dire, en quelque sorte avant-gardiste, tristement avant-gardiste. Et effectivement, c'est avéré que ce mot de Amherst a été, ce commandement d'Amherst, c'est dans les archives militaires et historiques de l'époque. Le musée du Fiermont, c'est des anciens bains généreux. Ça s'appelait le bain généreux à l'époque. C'était l'époque où, dans l'Est de Montréal, les logements ouvriers n'avaient pas tous des facilités sanitaires. Donc, on avait des bains publics pour que les ouvriers et les prolétaires puissent voir à leur hygiène personnelle. Et puis, ça avait été transformé en piscine longtemps. J'avais habité sur la rue Baudry, pas loin, puis j'allais sur la future rue Adadegan, dans le futur Musée du Fiermont pour y faire quelques mouvements de crâne, là. Et donc, j'y retournerai, hein, pour y voir aujourd'hui une toile de Christine. Depuis quand elle est là, cette toile?
Oh, en fait, c'est pas une toile, c'est une espèce de, ça, c'est un grand tapis, très, très grand. Je pense qu'il mesure 5-6 pieds. Et puis, c'est le virus de la petite vérole que j'ai représenté là-dessus. Donc, il est là depuis quelques mois déjà, pour quelques années.
C'est ça, ça fait partie maintenant de ce qu'on appelle leur exposition permanente, en sachant que la permanence dans les musées, c'est pas toujours systématiquement pour l'éternité, mais c'est généralement pour une dizaine d'années, voilà.
Oui, en parlant de musée, le musée d'Odanak va être les expositions permanentes vont être renouvelées. Ils ont commencé les travaux là, et je ne sais pas quand est-ce que ça va être ouvert de nouveau au public. Donc, si vous pourriez venir peut-être visiter.
Mais certainement, et je suis sûr que tu seras mise en contribution pour cette nouvelle exposition permanente. Donc, le musée serait fermé maintenant?
Mais je pense qu'il n'est pas fermé ou certaines sections sont fermées parce que la dernière fois que je suis allée au musée, ils étaient en train de faire des travaux. Donc, je ne peux pas te dire où c'en est, mais ça va être une nouvelle exposition permanente. Et la dernière exposition permanente a duré une dizaine d'années, en effet.
Est-ce qu'on va garder le magnifique vidéo là, qui avait été fait sur la création du monde selon les Abénakis?
Ah oui, ça va être gardé.
Bon,
Oui,
oui, parce qu'il
parce
faudrait
que les
pas.
gens aiment beaucoup.
Oui, moi, en tout cas, je trouve que c'est une merveille. À la fois, ben, c'est une histoire extraordinaire, hein, un mythe extraordinaire, et voilà.
Oui, ça, c'est des images qui sont tirées de cette vidéo. Et ça s'appelle, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça s'appelle La création du monde selon les Wambanaki. Et c'est des images qui racontent la création du monde, oups, la création du monde, la création du soleil, de la lune, la naissance de Glooskap, qui est notre héros culturels. Donc ça, vous pouvez obtenir ça au musée des Abénakis à Odonak.
Parfait. Puis, est-ce qu'ils prennent les commandes postales au musée?
Probablement.
Voilà, on ira sur le site puis on verra parce que ça nous intéresse. Alors donc, c'est le fameux récit qui maintenant, qu'on peut évidemment vivre pratiquement quand on est plongé dans la vidéo, mais maintenant on peut en avoir un souvenir bien, bien tangible sur papier avec ce livre.
C'est un beau petit livre.
Ben petit, il me semble pas petit, moi.
les illustrations que j'ai colorées et que j'ai mises en page. Donc, c'était assez intéressant parce que ça faisait longtemps que les gens demandaient d'avoir un souvenir comme ça. Donc, maintenant, c'est fait.
On trouve assez extraordinaire. Hein? On s'habitue, mais c'est quand même un geste de résistance. Hein? T'as pris la place, la maison maternelle. Et c'est là que tu as transformé l'intérieur pour en faire un lieu de travail, un lieu de vie. Alors, tu es vraiment, après de longs périples sur le territoire du Québec où tu as laissé ta marque un peu partout, en Abitibi, à Montréal, puis dans tout le mouvement autochtone, là, t'es campé sur la terre des Wabanaki, fièrement artistes et créatrices à partir de chez toi.
Ben oui, ça fait longtemps que je suis en circulation, hein. Puis 50 ans derrière moi d'art visuel. Naturellement, c'est pas ce que je faisais pour gagner ma vie tout le temps, mais j'ai quand même commencé il y a 50 ans.
Rappelle-nous comment tu as commencé.
J'ai commencé au Collège Manitou. Au Collège Manitou, je travaillais dans l'imprimerie, c'est le Thunderbird Press. J'étais photographe d'imprimerie et je faisais aussi la mise en page. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et on nous avait demandé de faire des illustrations, alors, parce que l'imprimerie produisait le matériel didactique pour les étudiants du Collège Manitou. Et il fallait faire des illustrations. Alors, j'ai commencé comme ça professionnellement. J'en ai toujours fait depuis que je suis enfant, des dessins, tout ça, mais d'une façon professionnelle, c'était le Collège Manitou, à l'imprimerie.
Et qu'est-ce qui t'avait amené à t'inscrire au Collège Manitou?
Ben, j'avais abandonné les études à 16 ans. J'étais pas une bonne étudiante, j'aimais pas l'école. Donc, à 16 ans, je me suis mise à travailler, j'étais fleuriste. Ben, pour commencer, apprenti fleuriste, après ça, fleuriste. Et puis, quand j'ai été plus vieille, quelques années plus tard, j'ai voulu retourner aux études. Et c'est là que je me suis inscrite au Collège Manitou, du côté anglais, parce que à l'époque, je vivais en anglais. Donc, c'est comme ça. Et puis, après une année de collège, bien, je suis partie, mais je suis revenue. Parce que je suis partie en Californie, j'ai pas aimé ça, je suis revenue. Et là, ben, j'étais engagée par l'imprimerie. J'étais engagée comme graphiste et photographe. Parce que j'avais mon cours de photographie commerciale. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles ils m'avaient engagée.
Si il y a le Collège Manitou, y a-tu fermé après ton départ ou c'est.
Ah oui, oui.
C'est après.
Oui, oui. Je suis repartie et puis une année plus tard, ça a fermé, malheureusement.
Ben d'ailleurs, on dirait que ça te suit puisque tu pars, le collège ferme, tu arrives à Odonak, Kiuna, un cégep autochtone rouvre.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Quel hasard!
Je ne sais pas, c'était à l'époque, hein, mais on a dit, puis tu vas nous confirmer si c'est vrai, que le collège Manitou, c'était sexe, drogue and rock'n'roll, c'est-tu vrai?
Oh, j'étais pas mal tranquille, mais c'était comme si vous mettez des jeunes, hein, tout dans la vingtaine, la jeune vingtaine, on faisait le party, c'est vrai. Mais là, pour mettre tous les gens dans le même sac, non, c'était pas comme ça.
Ben d'ailleurs, faut voir tous les leaders importants qui sont sortis du fameux collège Manitou. En effet, on se dit que s'ils ont eu cette armature pour la suite de leur vie. Ils n'ont pas juste dû être sur le party de temps du corps.
Non, puis moi-même, j'avais des notes excellentes dans les 80-90. Alors, c'était un collège qui nous stimulait notre savoir. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des... Puis, on rencontrait des jeunes de beaucoup de nations. Par exemple, il y en avait qui venaient des États-Unis, il y en avait qui venaient des Maritimes, pas mal des Mohawks, des Anishinaabés, presque toutes les nations du Québec étaient là. Alors, c'était vraiment se plonger dans le monde autochtone, mais jeune. Comme je te dis, j'avais comme 21 ans, moi.
Et est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui soient des enseignants, soit d'autres personnes que tu as connues là qui ont été marquants ou qui t'ont laissé un souvenir inoubliable?
J'aimais beaucoup Ernie Bénédicte. C'était un professeur Mohawk et qui connaissait sa culture sur le bout des doigts. Il parlait Mohawk et il dansait aussi et faisait des cérémonies spirituelles. Donc, lui, oui, j'ai beaucoup aimé cet homme sage, parce qu'il avait beaucoup de sagesse.
Oui, effectivement, René Bénédicte est vraiment un aîné extrêmement respecté. Moi aussi, je l'ai connu plus tard là, dans sa vie, mais vraiment très présent à Kwisatzné, qui était sa communauté, mais vraiment, il se promenait dans toutes les, était en demande pour des prestations cérémonielles ou rituelles ou pour des avis partout. Et effectivement, il parlait couramment le Mohawk. C'était un aîné extrêmement respecté. Ça l'a été toute sa vie, un aîné extrêmement respecté. Ernie Bénédicte, et je comprends que, effectivement, au Collège Manitou, avec tout près des jeunes, ça devait être effectivement une présence assez extraordinaire. À l'époque, je me souviens plus à quel moment les centres d'amitié autochtone ont commencé à pousser au Québec. T'as vu ça aussi, certainement.
Les centres d'amitié autochtone, dans les années 70, travaillaient pour une revue à Ottawa qui s'appelait The Native Perspective. Et c'était la revue de l'Association nationale au Canada des centres d'amitié autochtones. Et j'ai travaillé dans un centre d'amitié à Val-d'Or.
On dirait que ça coïncide tout dans les années où est-ce que le Collège Manitou a fonctionné.
Oui, ben ça, oui. Les années 70, la Femme autochtone du Québec a été fondée en 1974. Les Femmes autochtones du Québec ont fêté leur 50e anniversaire ce mois-ci, là, dans 2 semaines, je pense, à Québec, à l'hôtel Hilton.
Puis en passant aussi pour les auditeurs qui nous écoutent seulement par la vidéo, j'ai laissé un lien pour en savoir plus sur l'histoire du Collège Manitou dans les sections commentaires de la page Facebook des Présences autochtones.
Oui, je pense qu'en ce moment, il y a une exposition dans les Laurentides. Il faudrait, je ne sais pas exactement où, mais c'est une exposition sur le Collège Manitou.
Écoute, on fera la recherche, puis on va s'y intéresser très certainement parce que, effectivement, le Collège Manitou a été, même si ça a été seulement ouvert pendant quelques années à la Macasa, un moment tournant pour les Autochtones. Faut dire que les années 70, c'était les années où, bon, ça n'a jamais arrêté chez les Premières Nations, puis chez les Inuits, mais c'était vrai de la population québécoise et canadienne dans l'ensemble. Il y avait toujours un baby boom de l'après-guerre qui avait fait que en 70, les jeunes autour de 20 ans étaient la majorité de la population. Alors, ça avait amené sur le plan des sociales, puis sur le plan avec effet sur les gouvernements, toutes sortes d'initiatives s'adressant aux jeunes. Et il y a eu des retombées, bien sûr, notamment chez les Autochtones, dont la création d'une institution post-secondaire s'adressant aux étudiants, des étudiants autochtones, pour qu'ils puissent continuer à se former, mais dans le fond, au niveau cégep, mais avec, en regardant le lien avec les cultures. Et quand ça l'a fermé, ben ça l'a pris toutes ces années, ben, Kiuna, quoi, ça fait peut-être, est-ce que ça fait 10 ans que c'est ouvert, Kiuna, à peu près? Alors, ça a pris toutes ces années avant qu'on retrouve une institution qui s'adresse aux une institution d'enseignement de ce niveau-là pour les jeunes autochtones.
Ouais, mm-hmm. Ça fait 13 ans que Kiuna existe, en 2011.
Est-ce que tu as des liens avec Kiuna? J'imagine qu'on doit t'inviter à l'occasion.
À l'occasion, je vais donner une petite conférence. Oui. On m'invite une fois de temps en temps, soit à faire une petite conférence ou une présentation. Et mon fils, Alexis, enseigne à Kiuna.
Ah oui, Alexis Wabanoloat, qui est maintenant un avocat et qui est lui aussi porte fièrement son identité a bien acquise et effectivement, et soulignons-le, il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de Terres en Vue, donc aussi quelqu'un de très impliqué dans le non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan du développement culturel, artistique et communautaire. Donc, salutations à Alexis pendant qu'on le nomme.
Il était aussi avec nous sur notre podcast à l'épisode 129. Fait que si vous êtes intéressé à aller le voir, allez regarder notre podcast.
Oui, on voit ça sur Facebook.
Oui, on est accessible sur Facebook, YouTube, Twitter aussi, puis Instagram.
Ah, oui, OK.
Puis on a aussi un volet balado, soit est-ce que c'est juste de l'audio, fait qu'on peut nous trouver dans les différentes plateformes d'écoute.
OK. Mm.
Ben, j'en profite puisqu'on a nommé Instagram. On a mis en ligne, puis on va en mettre encore plusieurs liens avec des articles de revues ou de journaux à propos de l'actuelle Biennale de Venise, ou de façon honteuse. Alors là, disons-le, c'est honteux. Il n'y a pas un média, à ce que je sache, du Québec, qui a envoyé un critique d'art ou un journaliste pour couvrir la Biennale de Venise, qui est le plus grand événement au monde d'art contemporain. Or, cette année, à la Biennale de Venise, le pavillon américain s'est dénommé Gibson, qui est un Choctaw, hein, donc un artiste autochtone des États-Unis, qui représente les USA à la Biennale de Venise. C'est une première historique. Il y a eu un grand prix. Il y a plusieurs prix, des lions d'or qui sont donnés. Il y en a un qui a été donné à un exhibi maori qui était dans aborigène, qui était dans le pavillon de l'Australie. Bref, cette année, les arts autochtones sont partout à la Biennale de Venise et remarqués et remarquables. Et les artistes, évidemment, les artistes autochtones, ils ont été nombreux là, dans les 2 semaines précédentes où on inaugurait tous ces exhibits. Et malheureusement, encore une fois, dans la province, et là c'est vraiment provincial, dans la retardée province de Québec, ben on n'est pas bien informé de tout ça. Et c'est dommage parce que dans le monde et sur le plan international, les arts autochtones sont de mieux en mieux reconnus. Et puis là, on n'en est pas bien informé. Sauf ceux qui nous écoutent et qui vont aller sur le lien Instagram de Présence autochtone. Et là, vous pourrez voir plusieurs articles qu'on a mis. Puis là, j'en ai d'autres là, qu'on va publier bientôt. J'ai d'ailleurs parlé hier à mon ami Dominique Godrèche, journaliste parisienne qui est venue plusieurs fois à Présence autochtone, qui est à Venise et qui a rencontré, qui a interviewé les artistes là-bas. Pas seulement autochtones d'Amérique, elle interviewe aussi des artistes mongols qui, paraît-il, ont fait des trucs magnifiques. Et tout ça va être publié dans Art Presse, qui est quand même une revue extrêmement prestigieuse. Alors, on vous fera les liens pour que vous puissiez voir comment l'autochtonie et les cultures ancestrales continuent à abreuver, nourrir et soutenir l'art contemporain. D'ailleurs, qui sait, Christine, peut-être qu'un jour, tu iras, tu auras des œuvres à la prochaine biennale.
Oui, c'est quand?
Je pense que c'est dans 2 ans, si je me fie à l'appellation.
Donc, dans 2 ans, en 2026.
Tiens-toi prête.
On verra.
D'ailleurs, parlant de 2026, une primeur pour les auditeurs de ce podcast. Et on songe très sérieusement. Pointe-à-Calière, le musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, et Terres en vue. Alors, parlez-en pas, hein, c'est pas encore annoncé officiellement. C'est un secret d'alcôve pour tous les gens de la rue à Adadegen. Alors, donc, on songe à un nouveau geste commémoratif. En 2026, ça va être le 325e de la signature du traité de la Grande Paix de Montréal de 1701. On avait Pointe-à-Calière et Terres-en-Rue ramenés à la mémoire collective en 2001. D'ailleurs, tu étais là en 2001, il me semble, Christine.
Oui, j'étais là, puis on avait fait au Jardin botanique de Montréal, c'est ma territoriaux, on était 5 artistes. C'était pour une activité qui a eu lieu en 2001. Ah oui, ça fait déjà... C'est déjà plus que 20 ans.
Oui. Ah oui, je me souviens, c'est Virginia Pessé-Mapéo-Bordelot qui avait présidé à cette installation de 40 mots totémiques, puisqu'il y avait 40 nations signataires sur la version papier du traité. Il y en avait probablement plus d'impliqués parce que c'était... c'était chez les Premières Nations, c'était beaucoup plus le rituel du tabac et de la pipe qui assurait l'engagement des chefs qui représentaient leur nation plutôt qu'une signature qui était la tradition plus européenne. Mais on le sait, certains chefs autochtones se sont pliés à la tradition et ont signé avec des pictogrammes, hein, c'est-à-dire avec des dessins. Alors, ça aurait pu être toi qui aurais signé pour les Abénakis avec une de tes créations. Alors, et voilà, c'est des œuvres graphiques assez magnifiques qui ont inspiré des artistes, dont Nadia Mir, hein, qui a une œuvre maintenant à Montréal, une œuvre d'art public, inspiré des signatures autochtones de la Grande Paix. Et aussi, il y avait à l'époque les 40 mots totémiques qui rappelaient les... Toi, tu avais travaillé quoi à l'époque?
Moi, je pense que j'en avais 8. Je les ai peints, je les ai décorés. Malheureusement, ça a duré quand même quelques années parce qu'après, ils ont été installés ailleurs. Mais maintenant, il y a plus rien, il y a plus de mâts totémiques parce qu'avec l'usure du temps, ils ont été obligés de les enlever. Et moi, j'ai conservé quelques pièces quand même de ces mâts, les décorations, et j'en ai fait une autre œuvre.
Je pense qu'il en reste un, genre au parc Maisonneuve, au coin Bio puis Sherbrooke, mais plus en retrait. Oui. Ouais.
Parce que je sais, je me souviens, on les avait après. Rappeler qu'en 2001, c'était la création du Jardin des Premières Nations dans la grande installation scientifique botanique, le Jardin botanique de Montréal. Et c'était pour le maire Bourque, qui était maire de Montréal à l'époque, qui a soutenu fortement la commémoration. C'était pour la ville de Montréal le cadeau au Québec, aux Premières Nations, à l'Amérique, pour les 300 ans de la Grande Paix, de créer ce jardin des Premières Nations. Donc, et évidemment, on peut pas créer un jardin à partir de liens. Donc, il y avait déjà une sapinerie près d'un lac et qui pouvait déjà accueillir les premiers éléments de ce qui allait devenir maintenant. Maintenant, évidemment, avec les années, c'est devenu un vrai jardin avec interprétation, avec un sentier, avec des plantes, avec des interventions artistiques. C'est vraiment un endroit magnifique à visiter. Mais à l'époque, évidemment, c'était minimaliste parce qu'on peut pas créer un jardin en dedans d'un an. Et ce qu'on avait fait, c'est que les carottements avaient été à l'entrée de tout le jardin botanique là pendant l'année 2001. Après ça, on les avait mis autour du lac. Et ils étaient absolument magnifiques. À un moment donné, je me souviens, on m'avait appelé du jardin botanique pour dire les mâts sont en train, bon, la nature, évidemment, c'est du bois. La base est en train de pourrir et les mâts sont en train de tomber. Puis avec les intempéries, parfois les travaux artistiques qui étaient greffés sur les mâts commençaient à tomber, puis à d'autres endroits, ben il y avait des matériaux naturels, des ossements, tout ça, ça commençait à se désagréger. Alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai dit, je vais appeler l'artiste. Je ne peux pas décider, moi, qu'est-ce qu'on fait. Et là, j'ai appelé Virginia, et elle a dit, c'est la fonction des mâts totémiques. Après, quand ils ont fait leur temps, ils tombent et on les laisse disparaître, se réintégrer à la nature, c'est leur destin. C'est des œuvres peut-être, est-ce qu'on peut dire éphémère, parce que, enfin, oui, si on regarde à l'échelle historique, oui, sûrement éphémère, et c'est leur fonction. Il y a un très beau film, hein, comment il s'appelait, c'était Cardinal, je vous dis son prénom, un cinéaste autochtone maintenant décédé, là, qui avait fait deux films qui s'appellent Totem à l'ONF, et le film est assez intéressant parce que une nation de la côte ouest, je ne sais pas si c'est les Aïda, en tout cas une nation de la côte ouest, découvre par hasard dans une publication qu'un de leurs totems se retrouve dans un musée en Suède. Alors, il y a tout un processus de repatriation qui est commencé et le musée est d'accord pour rapatrier le totem. Les Autochtones ont dit, on va vous en faire une copie pour vous, mais nous, on veut récupérer l'original. Très bien, tout allait bien. Jusqu'au moment où quelqu'un me dit, mais où allez-vous le mettre, ce totem? Vous n'avez pas de musée dans votre communauté. Et on dit, bon, on va le planter où il était planté, puis on va le laisser sa réintégration de la nature suivre son cours. Alors, là, le musée ne veut plus redonner le totem. Vous n'allez pas faire ça sur une pièce historique. Alors, c'est tout le dilemme qu'on retrouve dans ce très beau documentaire. Mais nous, il n'y a pas eu de dilemme. On a dit, tout le monde était d'accord, vu que l'artiste avait donné son avis, que c'est comme ça. Et on a récupéré aussi quelques pièces, les masques de Gilles Doré, quelques ossements de caribou qu'on a ici en souvenir. Peut-être qu'on pourrait te les confier pour eux, que tu les intègres dans une œuvre.
Ah, oui, peut-être.
Ah, j'ai trouvé le film que tu parlais, là, je pense. Ouais. Je ne sais pas comment prononcer le mot.
Là, et sur quoi tu travailles présentement, Christine?
Sur quoi je travaille? J'ai des projets qui sont dans le futur proche. Donc, je travaille sur à me distraire. Je fais des tableaux, je fais des dessins sur le petit programme Paint. C'est comme ça que j'avais commencé avec l'art numérique. Et puis là, j'y suis retournée parce que j'étais privée d'Internet pendant une semaine parce que j'ai eu le COVID. J'ai eu le COVID et je voulais pas que le technicien vienne s'exposer au COVID. Donc, j'étais obligée d'attendre que le technicien vienne réparer Internet. Et puis là, j'ai retrouvé ce programme qui s'appelle Paint et puis j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dessins abstraits. D'ailleurs, je t'en ai envoyé un pour ton anniversaire.
C'est vrai.
Ça a été fait là-dessus. Puis après ça, je les traite sur Photoshop pour faire plus de textures. C'est ce que je fais en ce moment. Et je suis supposée écrire une histoire aussi parce que j'ai collaboré avec quatre autres jeunes femmes à écrire une histoire et ça a été publié chez Somme Toute. Ça s'appelle Cinq éclats de siècle au féminin. Donc, j'ai une histoire dans ce livre. Et puis là, la directrice de ce petit groupe nous a demandé de faire un autre projet en faisant chacune une histoire. Donc, je suis supposée faire ça aussi. Là, j'ai pas d'inspiration.
Oh, ça viendra. Je suis pas inquiète.
Oh, ça viendra.
Oui. Alors, comment s'appelle ce groupe déjà?
Ah, il n'y a pas de nom, c'est pas.
Ah,
c'est
OK.
des cinq auteurs femmes, mais qui se sont réunies. Moi, on m'a demandé de participer à ce projet. J'ai dit oui, c'est un défi pour moi d'écrire une histoire sur un sujet en particulier parce que y avait des. On n'était pas obligé, bien sûr, mais il fallait mettre une certaine famille dans notre histoire, le nom d'une famille, et il fallait aussi peut-être, idéalement, y ajouter des éléments spirituels. Donc, j'ai réussi à faire ça. C'est pour ça que je dis que c'était un défi, parce que si on m'avait pas demandé ça, je l'aurais jamais fait, de toute façon. Et pour ça que l'autre projet de livre, ben, c'est encore un défi, parce que je ne sais pas si je peux en parler, mais parce que oui, ça va être sur l'art, les femmes et l'art. Donc, c'est un autre défi.
Pourtant, les femmes et l'art, ça devrait pas, c'est sûrement pas un sujet qui t'est lointain et étranger.
Non, non, c'est ça. Mais le défi pour ce projet-là, c'est que il faut situer l'histoire dans un festival à côté de Québec. Bon, alors, c'est.
Pourquoi à côté de Québec, ça pourrait pas être à Montréal? Bon.
Non, parce que c'est un festival qui est à Saint-Joachin-de-Montmorency. Et ça s'appelle le Festival des oies blanches. Donc, il faut que notre récit soit que ça se passe au festival, soit qu'on en parle dans le récit.
Ah oui, par exemple, quelque chose créé au Festival international Présence autochtone pourrait se retrouver au
Oui,
Festival de la Commande. Hein? Tu vois,
oui, oui,
là,
oui.
je suis une muse pour toi. Alors, excuse, on va revenir. Comment s'appelle le livre publié?
Cinq éclats de siècle au féminin. D'ailleurs, je ne sais jamais si c'est possible que c'est à côté.
Oui. Édition
Ah
Somme
ben
Toute.
non, je ne l'ai pas.
Ben Alexandre va le trouver. Édition Somme Toute, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et j'ai fait la page couverture. Oui, c'est ça.
Ah oui, voilà. Ah, est-ce qu'on peut le voir plus gros? Ah oui, ah, c'est beau. Wow. Cinq éclats de siècle au féminin. Ben écoute, on va se le procurer. Celui-là, on n'a pas besoin d'aller au musée des Abénakis pour le trouver. Quoique le musée des Abénakis pourrait très bien le tenir dans son inventaire, ce serait une bonne idée.
Ah oui, j'ai oublié de leur dire.
Ah oui, c'est vrai, il y a aussi la très belle couverture du livre de Mauricio que tu as fait, de Mauricio Gatti, qui est la réédition, mais complètement revue, corrigée, augmentée, d'une anthologie de la littérature autochtone. Et là aussi, c'est une louve qui est sous les feuilles, hein. Je pense que
Oui,
c'est.
c'est les feuilles qui chantent. Et la louve, c'était un tableau que j'avais fait pour le musée, pour une exposition. Puis finalement, je l'ai traité en Photoshop. J'ai tout refait en Photoshop parce que c'était un vrai tableau. Puis donc, ça fait déjà quelques années. Et Mauricio cherchait une image pour son nouveau livre. Je lui ai suggéré celle-là. Il a beaucoup aimé. Toi aussi, je pense. Oui.
Oui, en tout cas, j'étais préfacier et on m'a envoyé l'image avant publication en me disant que ce que t'en penses, c'est extraordinaire, c'est formidable. Il y en avait une autre aussi qui avait été suggérée, que j'oublie, mais qui était aussi très belle. Mais les deux étaient à la fois magnifiques et appropriés. Et puis voilà, alors donc, ça aussi, c'est pour les gens qui veulent se plonger dans la culture des premiers peuples. Là, c'est intéressant. Parce qu'on a un spécialiste de la littérature autochtone en langue française qui a fait une anthologie des auteurs autochtones du Québec. Ça part aussi bien de plus loin, hein, en Antoné Capèche, aux auteurs et autrices plus récents, Joséphine Bacon, Christine Siwi-Vavanolohat et autres.
Oui, j'ai une histoire dans l'anthologie.
Voilà. Alors donc, pour quelqu'un qui veut se J'allais dire une plongée à vol d'oiseau, mais c'est pas c'est pas tout à fait la bonne expression, mais en fait, pour quelqu'un qui va avoir un survol, mais en même temps quelque chose de sérieux sur les cultures, l'émergence, la réémergence des cultures autochtones dans l'univers du Québec contemporain, c'est vraiment un ouvrage magnifique parce que ça permet justement de saisir à la fois l'ampleur du phénomène et voir comment ça s'est développé aussi dans l'histoire récente. Alors, un ouvrage qu'on recommande. Et d'ailleurs, je veux t'inviter, tiens, moi aussi, je vais aller fouiller dans les livres, là. Je reviens tout de suite. Alors, Christine, j'ai une invitation pour toi. Quand tu viendras à Montréal, on pourra aller voir l'exposition sur les Olmecs.
Ah oui!
Et qui vient d'ouvrir à Pointe-à-Calière. Alors, les Olmecs, c'est une civilisation mésoaméricaine du Mexique qui, évidemment, un musée d'archéologie peut puiser à... Alors, ils ont fait bouger du Mexique des pièces absolument extraordinaires, là, et qui... Hein, et c'est venu par avion, tu imagines? C'est ce qu'ils m'ont dit, par avion, faire bouger
des géantes.
Ben oui, puis ça pèse des tonnes. Alors, oui. Ouf! Alors, il ne faut pas tout mettre dans le même avion, évidemment. Alors, ça a été très, très compliqué. Alors, c'est vraiment des pièces qu'on est très, très privilégiés de voir à Montréal. Et donc, ça devient intéressant. Puis j'ai vu aussi... On est très familier avec le McCord, qui maintenant est un musée, presque un musée autochtone, en tout cas très, qui a beaucoup, beaucoup d'exhibits, d'expositions, d'événements autour des cultures autochtones, ancestrales ou les expressions en art actuel. Mais là aussi, j'ai vu Pointe-à-Calière, ils ont une œuvre magnifique de notre ami Mohawk, voyons. Qui était danseur là, Macumber, Steve Macumber. Alors qui fait maintenant partie de l'exposition permanente du musée, puis des pièces aussi de Nadia Mir sur la Grande Paix. Alors donc on peut voir aussi comment les dans cette évolution qu'a connue la société vis-à-vis des cultures autochtones, ça pénètre, ça percole à l'intérieur d'endroits où plus traditionnalistes par définition, les musées. Alors, c'est dire les progrès accomplis depuis le temps où tu étais à la Macasa. Et donc, tu me diras quand tu viens à Montréal.
Ah oui, c'est là pour longtemps?
Hein?
C'est là pour longtemps?
L'exposition, je pense qu'elle est là jusqu'à l'automne. Mais moi, à l'âge qu'on a, on sait pas si on sera là, nous, pour longtemps. Faut pas perdre de temps, là. Et c'est drôle parce que tu vois comment les choses se recoupent. Tu disais que tu as eu la COVID récemment.
Oui.
Quand on était en podcast la dernière fois, c'était pendant le COVID, tout était fermé. Et puis, quand je suis allé voir. Parce que le 17 juin, ah ben tiens, c'est un autre plug qu'on peut faire pendant que tu es là. Le 17 juin, il va y avoir Grand Makoucham littéraire. Ça va être quelque chose dans le lundi 17 juin à la Grande Bibliothèque. C'est un partenariat avec Terres en vue, Présence autochtone et la Grande Bibliothèque qui appelle ça les lundis culturels. Ça se passe dans le hall. Et les lundis, on peut faire du bruit tant qu'on veut dans le hall. J'y étais allé parce qu'il y avait une collaboration avec l'Opéra de Montréal. Et donc, il y avait des chants et tout. Puis, j'y étais avec Xavier Huard, avec qui je travaille pour organiser ce Makoucham littéraire. Et là, ils se sont mis à parler de toi. Est-ce que tu connais Christine? Non! C'était le 25 mars. Après, voici ma carte d'anniversaire et j'ai montré ta toile. Et là, tout le monde dit, mais c'est bien beau. Ben, j'ai dit, ben oui, c'est beau, c'est mon anniversaire. Alors, j'étais vraiment privilégié d'avoir cette carte et ce qui était en même temps un beau cadeau. Et puis, quand on a eu les extraits d'opéra, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? C'est le duo, le fameux duo des femmes de l'acné. Et l'opéra de l'acné, on est allé le voir ensemble avec ta mère.
Oui, ben c'est l'air des fleurs, je l'écoute pratiquement tous les jours.
Le oui.
Duo. Ah oui, c'est j'adore.
Magnifique,
ça.
La.
Bien, Alita.
Oui. Alors, j'étais là pour autre chose, mais tu étais avec moi tout le temps. Alors donc, un mot de la fin, Christine, quelque chose où tu nous convoques, nous invites?
Ah oui, ben, viens à Odanak, me voir et le musée oui. En même temps, voir le musée, comme je disais tantôt, qui va être rénové, c'est une nouvelle exposition permanente qui va être.
Ben, écoute, on a très hâte, puis on va sûrement chercher peut-être avoir un podcast avec les gens du musée, justement, cette réouverture. Il y a samedi, ça va être le vernissage, mais il y a une exposition dans le cadre de la Biennale des arts autochtones à Armure, la belle galerie là, à Montréal. Les gens qui font cette galerie sont extraordinaires. Ils ont été beaucoup, les directeurs de la galerie derrière l'impulsion d'une biennale d'art autochtone à Montréal. Et là, c'est sur les récits de création. Alors ça aussi, ça va être quelque chose à voir et ça va nous reconnecter peut-être avec la très belle vidéo qui nous amène, qui nous plonge dans la culture abénaquise et qu'on peut voir au musée, un peu voir en allant au musée. À Odanak, alors, c'est certainement quelque chose à voir. Et aussi, on peut...
Si vous allez à Québec, je participe à une exposition d'œuvres de papier. Ça s'appelle Obsession Papier. Et c'est à la Villa Bagatelle. Il paraît que c'est très joli, cette villa. J'ai vu des photos des œuvres, c'est magnifique. Puis moi, j'en ai quelques œuvres dans cette exposition-là. Et puis, si vous allez au Parc Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, vous allez voir aussi de mes œuvres qui vont être exposées dans le parc à l'extérieur.
Bon.
De juin à septembre.
Ben voilà, ben l'été, pendant qu'on fait du vélo, pour faire une pointe à Rivière-des-Prairies, pour aller pédaler autour des œuvres de Christine. C'est quoi que tu as comme œuvre là?
Ah, c'est des œuvres qui sont tirées de mon livre d'images qui s'appelle Dans l'œil du lièvre. Et c'est une exposition qui est itinérante et puis de présenter, ça fait trois endroits où on l'a vu à Montréal. Donc, ça, c'est un quatrième endroit. Puis, c'est des œuvres qui vont être imprimées sur de l'aluminium.
D'accord, oui, des panneaux d'aluminium pour les conditions extérieures.
Oui.
Oui, et puis il y a une chose sûrement qui va t'intéresser. Il y a une communauté autochtone aux États-Unis qui ont fait pousser du chanvre au moment même où c'était illégal, mais du chanvre pour en tirer des fibres. Normalement, on fait le lin, le fameux tissu, mais eux en ont fait un ciment pour avoir des constructions écologiques et pour avoir une autonomie au niveau de leur communauté, une autonomie au niveau du bâtiment et de l'architecture. Et on va avoir les responsables de ce projet-là qu'on va rencontrer avec une architecte du Québec qui est spécialiste en éco-architecture. Alors, surveillez, là, c'est dans les rendez-vous sur la rue Adadegan qui vont s'en venir là en mai, qui sont toujours passionnants, mais celui-là, ça va vraiment être grand, grand spécial. Tu sais, tu vas peut-être avoir idée de faire pousser maintenant un grand champ de cannabis sur les terres abénakis.
Ah oh oui, mais quelle date?
Je me souviens pas. Faut venir sur notre site et s'inscrire à la newsletter. Comme ça, on est sûr de pas le manquer.
Pour rester à l'affût.
Voilà. C'est un mercredi, midi.
Mercredi. Donc, oui. Je vais regarder, c'est sûr. Parce que j'aime beaucoup l'architecture et puis, des idées novatrices comme ça. Ça m'intéresse beaucoup.
Parfait. Ben, Christine, c'est toujours là aussi. On pourra en avoir pour quelques heures. Mais on va s'en garder pour une prochaine fois.
Oui. Alors, merci d'être venu. De m'avoir invité.
Merci, Eugène.
Et merci d'avoir
été là.
Oui, merci d'avoir été là. C'est toujours formidable.
Salut, à la prochaine.
Salut.
Natacha.